Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, partagez le savoir avec Alfred Gilder, notre invité. Alfred Gilder, bonjour.
Bonjour.
Haut fonctionnaire de taille moyenne, c'est ainsi que vous vous qualifiez, Alfred Gilder. Vous travaillez à Bercy, chef de mission de contrôle général économique et financier. Définition ?
Dans l'administration, il y a un grade. Nous faisons des missions pour les programmes de révision des dépenses publiques. Puisque, comme vous le savez, un budget, c'est, que ce soit le budget de l'État ou votre budget ou le mien, c'est une pompe aspirante et refoulante. Donc pour essayer d'aspirer le moins possible sous forme d'impôts, il faut tâcher de ne pas en refuler trop sous forme de dépenses publiques.
Donc la RGPP, c'est vous ?
Non, pas moi seulement.
Non, révision générale des politiques
publiques.
J'ai participé
à des programmes de réduction des dépenses publiques. Voilà. Un petit peu moins maintenant, puisque je termine ma carrière, hélas. Et donc je suis surtout occupé par une autre fonction, qui est celle de haut fonctionnaire de terminologie.
Alors justement, on va donner une définition aussi de cette activité qui est très importante du point de vue de la langue française, puisqu'il s'agit de trouver les équivalents français aux mots anglais qui s'invitent dans notre langue.
Oui, c'est tout à fait de cela qu'il s'agit. Alors d'abord, le terme terminologie, je m'aperçois qu'il est peu connu du grand public. Donc moi, j'aurais préféré que l'on... Un peu jargonnant, c'est un terme très scientifique. Il est vrai que la terminologie elle-même est un terme scientifique et les travaux aussi. Mais disons, on parlerait de commission du vocabulaire, que ça n'en serait pas plus mal pour que monsieur tout le monde comprenne.
Exactement, ça serait plus parlant.
Ça serait plus parlant.
Et qui choisit alors ce genre de... terminologie, justement.
Oui, alors, il y a des commissions qui sont instituées depuis Georges Pompidou, donc depuis les années 70, lorsqu'il était déjà Premier ministre, comme suite à une obligation qui remonte à 5 siècles bientôt. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, par laquelle on dit qu'il faut parler en français et non autrement. À l'époque, il s'agissait de lutter contre l'usage du latin. C'était le passage des textes en latin aux textes en français qui s'imposait à tout ce qui avait un aspect juridique ou judiciaire. Aujourd'hui, c'est le combat contre l'envahissement de notre langue par des mots venus d'outre-Atlantique pour l'essentiel. Donc, les fonctionnaires ont l'obligation de n'employer par écrit que des termes français. Pour cela, quand des mots nouveaux apparaissent, tels que email, il y a des commissions qui se réunissent et qui font des propositions. C'est un processus très long de propositions. Et au bout du circuit, l'Académie française donne son accord. Sans l'accord de l'Académie française, les mots ne sont pas après publiés au journal officiel.
Les champs que vous couvrez sont très nombreux.
Sont très très nombreux. Il y a 18 commissions pour l'ensemble de l'administration. Pour ce qui me concerne, à Bercy, donc ministère des Finances entre guillemets, ce n'est pas le libellé exact, mais disons en gros le ministère de l'Économie et des Finances, a 7 commissions de terminologie qui sont les plus productives. Il y a la commission économie et finances qui a aussi les termes du commerce. Donc là, on a un envahissement permanent de termes nouveaux genre happy hour ou low cost ou subprime. La commission de l'informatique, et là aussi, c'est l'invasion permanente. Les postes et télécommunications, et là aussi, bonjour les B-Box et les iPhone.
iPhone, vous avez trouvé Ordiphone.
Oui, moi j'ai proposé Ordiphone, puisque c'est à la fois un ordinateur et un téléphone. D'ailleurs, ce mot a été trouvé très bien par le journal Le Monde, qui d'habitude est très critique sur les équivalents officiels. Voilà. Il y a aussi, j'ai la commission de l'industrie nucléaire. Bon, là, on est dans des domaines très pointus et très spécialisés. Les termes de l'automobile. La commission de l'automobile, celle du pétrole. Pétrole et gaz, et celle de la chimie.
En tout cas, on voit bien, Alfred Gilder, qu'il ne s'agit pas d'une coquetterie, il s'agit de nommer la modernité.
Oui.
Ni plus ni moins.
À chose nouvelle,
et donc elle doit se nommer en
nouveau.
Français.
Oui, à chose nouvelle, mot nouveau. Et l'important, c'est non seulement de donner un équivalent, mais aussi pour que les mots passent, parce qu'il ne suffit pas de proposer un équivalent, fût-il le meilleur qui soit, et les mots sont accompagnés de la définition. L'important, c'est surtout que monsieur et madame tout le monde comprennent. Quand on dit « subprime », les gens ne savent pas ce que c'est. Actuellement, il y a un terme qui se répand comme la vérole dans le bas monde, si vous me permettez l'expression, « lean administration ». Tout le monde dit que l'anglais, c'est facile, mais le terme « lean », il n'y a pas un Français qui, sur 100 qui aurait fait de l'anglais quelques années qui sait ce que veut dire « lean ». « Lean », ça veut dire « maigre » en anglais, L-E-A-N. Et « lean administration » se traduit par « administration agile ». C'est en même temps souvent les anglicismes ou les américanismes des euphémismes. Ce qu'on ne veut pas dire qu'il faut dégraisser l'administration.
Les termes sont assez aseptisés. Hein.
Voilà.
Mais administration, en même temps, en anglais, ça veut dire gouvernement.
Gouvernement, oui,
donc,
oui.
Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un équivalent.
C'est plein de contresens, voire de non-sens.
Je précise, Alfred Gilder, que vous parlez anglais couramment. Vous êtes né à Bagdad, vous parlez arabe également couramment. Vous parlez à
oui,
peu près cinq langues couramment.
Oui.
Et que le français, vous n'en avez fait l'acquisition qu'à l'âge de 10 ans.
Ah, on ne peut rien vous cacher. Effectivement, je suis né à Bagdad d'un père anglais et jusqu'à l'âge de 10 ans, à l'école, c'était l'arabe et l'anglais, parce que c'était une colonie britannique, l'Irak. Et donc, ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que j'ai eu la chance d'apprendre le français par ma grand-mère maternelle, Marguerite Millon, qui était institutrice et poétesse, et qui m'a fait aimer les mots, qui m'a appris le français, qui voyait que j'étais, comme voyaient les immigrés. Moi, j'avais la chance d'appartenir à la petite bourgeoisie, mais je comprends le drame des enfants d'immigrés dont les parents ou les grands-parents n'ont pas chance de l'éduquer. Cela étant, elle m'a fait aimer la langue. Peut-être que si mon grand-père était menuisier, vous auriez comme invité aujourd'hui un ébéniste. Donc, vous savez, les parents ou les grands-parents, la transmission du savoir, j'ai entendu ça tout à l'heure. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que ce qui se dit dans une langue a un tout autre sens dans une autre. Donc, on ne peut pas, comme ça, s'amuser à prendre un mot dans une langue et à le reproduire bêtement parce que ça aboutit souvent à des contresens ou à des non-sens. Donc, parce que derrière les mots, vous le savez, il y a une manière, c'est une manière de penser, c'est une civilisation, c'est une manière d'être au monde. Donc, regardez chien chaud, par exemple. Quand on dit hot dog, chien chaud, qu'est-ce que ça veut dire? Les Anglais, c'est...
Mais justement, c'est intraduisible.
C'est intraduisible, mais...
Ça fait partie des anglicismes intraduisibles,
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Mais encore que les Espagnols l'ont traduit par perrito caliente, je veux simplement dire que si on le traduisait par chien chaud, c'est vous montrer, je donnais ça comme exemple de sens. Les Anglais mettent les chiens partout, to work like a dog, hein, bosser comme un chien. Nous, on ne dirait pas qu'on bosse comme un chien.
On bosse comme un âne.
Voyez, hein,
on bosse comme un âne, nous.
Comme un âne, voilà. Ouais. Donc, si on veut faire du mot à mot, du verbatim, souvent, ça ne veut rien dire.
Les chiens, on les met sur les porte-avions avec les chiens jaunes. Alors, Alfred Gilder, je précise une chose. Vous êtes, pour essayer que l'on comprenne bien, vous êtes grosso modo le numéro 2, numéro 3 de Bercy. Comment est-ce qu'on pourrait vous qualifier?
Non, pas du tout. Non, je ne suis
vous
pas
avez
du tout le numéro 3.
Un haut poste.
Oui, haut poste. Mais...
Oui, non, mais vous êtes trop modeste. Un haut poste. Est-ce que cela vous donne un certain pouvoir sur le fait que les fonctionnaires suivent les directives, les recommandations en termes de terminologie, justement?
Oui, ça c'est...
C'est suivi?
Oui, c'est...
Autrement dit, vous ne bossez pas pour rien?
Je ne peux pas répondre. Si je réponds oui, vous allez me trouver immodeste. Si je réponds non, vous allez croire que je suis inefficace. En fait, il ne suffit pas pour l'administration, d'ailleurs, comme pour les Français en général, de dire ne dites pas dites, faites ceci, ne faites pas cela. Il y a beaucoup de travail de persuasion aussi pour aider les gens à comprendre. L'important dans la terminologie, c'est que les gens comprennent de quoi ils retournent. Par exemple, quand je fais le « lean administration », a été employé par un directeur, eh bien, je l'ai appelé et je lui ai fait, avant de lui envoyer une note pour lui expliquer que ce terme, qu'il ne faut pas dire « lean administration », mais « administration agile ». Il faut, même chose pour les fonctionnaires, il faut leur expliquer. Donc, je réponds souvent je donne des entretiens où je discute.
Mais ils vous écoutent
ou
ils disent « Oh là là, le père Gilder, il nous les casse hein. ».
Écoutez, ma satisfaction est de vous dire qu'au départ, on dit « Oh Gilder, il nous ennuie », pour parler poliment. Et après, il m'appelle « Monsieur Gilder ou Alfred, comment faut-il dire en français ceci ou cela ?» voyez. Donc au départ, effectivement, vous passez par l'empêcheur d'angliciser en rond, mais à l'arrivée, on en tient compte. Mais il ne suffit pas de dire que c'est la loi qu'il faut le mettre. Il faut expliquer. Et il faut convaincre les gens. Au pays de Voltaire, vous ne pouvez pas imposer. Nous sommes dans un pays de liberté.
Alors, je parlais volontairement de manière cavalière, Alfred Gilder, parce que je continue votre présentation. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages sur la langue française, justement avec humour et persuasion. Et si l'on parlait français, le dictionnaire franglais-français que l'on a abordé à travers les exemples que vous nous avez donnés, il y en a d'autres, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, au demeurant, rapidement, Happy Hour, vous traduisez comment, ça?
L'heure propice.
D'accord.
Ou la bonne heure.
La bonne heure.
La bonne heure. Mais la bonne heure, tu sais, on va penser bonheur. Mais
oui.
L'heure propice.
L'heure propice, ça veut dire que oui. L'on comprend immédiatement si un bar dit happy hour.
Heure propice.
Heure propice.
Mais simplement, c'est qu'on est volontairement, du fait du snobisme et de l'influence du modèle culturel américain, c'est qu'on ringardise la langue. Et un des aspects fâcheux des anglicismes, c'est que ça tue des mots français ou de belles expressions. Vous voyez ? Le mot propice, à la limite, sortira du vocabulaire sous l'influence de happy hour. Je pense que les auditeurs savent ce que c'est que la happy hour. C'est de faire venir des gens consommer en dehors des heures de pointe. Donc, c'est un peu comme les tarifs hors saison des voyagistes.
Et on consomme moins cher.
On consomme moins cher.
C'est un produit d'appel.
Voilà. Mais nous ne manquons jamais de mots pour exprimer les choses en bon français, de sorte que tout le monde comprenne.
Allez, même sur ce point, vous avez trouvé 52 équivalents à week-end. Ce n'est pas merveilleux, ça?
Oui, parce que s'il y avait eu 53 semaines, je me serais fait un devoir d'en trouver un 53e.
Allez, quelques-uns de ces équivalents, Alfred Gilder.
Oui, d'abord, fin de semaine.
Bien sûr.
La
mais
semaine
c'est ambigu,
anglaise.
Fin de semaine, parce que fin de semaine, ça inclut le vendredi dans l'esprit des gens.
Oui, mais littéralement, il faut d'abord savoir que week-end vient de l'allemand, de Hochmitteldeutsch, de moyen haut allemand.
Wochenende.
Wochenende. Donc, c'est la fin de semaine. Et alors, justement, la fin de semaine était imprécise, parce qu'au départ, la semaine anglaise, c'est on ne travaillait que le samedi matin. C'est les Anglais qui ont lancé ça. Nous avions la méridienne. Nous avons, moi, je dis souvent samedim. S-A-M-D-I-M.
Vous avez samedim, samedimanche, samanche.
Samedimanche, samanche. La Sainte Coupe, l'entre-semaine, c'est un terme que j'aime bien. Justement, vous me dites le vendredi, moi je trouve que le mot entre-semaine, qui rentre dans une gamme de mots entre-côtes et tous les entre-quelque chose, une entre-semaine, donc nous ne manquons pas de... Le bijour, j'avais dit, ça c'est pour le plaisir de faire des néologismes, bon bijour.
Le repos,
dans
le
la
repos
religion,
judéo-chrétien,
le
la
repos
dominique.
Judéo-chrétien. La dominique, ça s'est dit très longtemps, ça se dit dans nos îles, aux Antilles on dit la dominique, la ferie. Pour dans l'Église catholique, on dit la ferie. Donc, nous ne manquons pas d'équivalents. Et je vous disais.
Mais il
tout
est tellement
à l'heure,
enraciné, Alfred Gilder, ce week-end, hein, quand même.
Oui, oui, oui. À ce propos, non, ben, je ne pense pas qu'il sorte de l'usage parce qu'il est implanté depuis très longtemps. Je ferai juste deux observations. Une, c'est qu'effectivement, depuis 1945, comme tout le monde apprend l'anglais, autrefois, les mots, on les francisait. Avant-guerre, il est vraisemblable que le mot « week-end » serait devenu quelque chose comme « vacand », « v-e-c-a-n-d-e » ou « w-e-q-n-d-e » ou « o-u-i-q-n-d-e ». D'ailleurs, Queneau l'écrit comme ça. Souvent, je francise. «
Week-end », q-u-i-n-d-e, c'est ça, hein ?
Oui.
Avec « oui » comme
oui.
Le « oui ».
Voilà. Et ça, c'est la première remarque. La seconde, moi, ce qui m'amuse ou me choque, c'est que week-end, il y a une imprécision de sens. Vous savez que les mots, c'est des combinaisons de signes, de sens et de sons.
La loi des trois S.
Voilà. Et quant au sens, le week-end est curieux parce que dans les trois grandes religions chrétiennes, juives et musulmanes, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On l'a oublié, ça. Mais par exemple, en arabe, qui est ma langue natale, el-ahad el-yom, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Ahad, c'est le premier. Donc, vous voyez, en arabe, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc
et déjà, week-end, comment ça se dit en arabe, le week-end? Est-ce qu'il y a la notion, d'ailleurs?
Oui, ils ont employé, maintenant, ils emploient le mot, on dirait, khalas el-yom, la fin du jour. Ou,
mais est-ce qu'il comprend le vendredi, le jour de la prière? Et le samedi, est-ce qu'il est décalé? Est-ce que c'est notre samedi et notre dimanche?
Oui, parce qu'ils ne travaillent pas le samedi et le dimanche, la plupart du temps. Mais ils emploient le week-end prononcé à l'arabe. De même qu'ils disent talifoun pour téléphone. Sinon, c'est des périphrases. Mais deuxièmement, quand vous dites, par exemple, le week-end de Pâques, ou quand on dit bon week-end, avec tous les ponts que nous avons, les ponts, voilà un terme quand c'est un week-end prolongé. Vous savez, quand, notamment au mois de mai, le lundi de Pâques, etc., ou à la Pentecôte, ou quand ça tombe un lundi, par exemple. Bon, une fin de semaine qui se termine le mardi, ça n'a pas de bon sens. Donc c'est ça, ou quand vous dites bonne fin de week-end, bonne fin de semaine, vous voyez.
Oui, ça n'a pas de sens, mais on n'a pas le mot encore, hein. C'est pas facile, parce qu'un pont, normalement, pour terminer là-dessus, un pont, c'est que vous avez un jour férié qui suit un jour travaillé. Par exemple, en 2009, cette année, vous avez le 14 juillet, puis ce n'est pas un pont, précisément, puisque c'est le lundi, le 14 juillet. Ça aurait été un pont si vous aviez eu un jour férié le 15 juillet,
oui.
Et dans ce cas, vous enjambez le lundi.
Oui, moi, je veux simplement vous dire que quelque chose.
La Pentecôte n'est pas un pont.
J'entends bien. Je veux simplement vous dire que quand on parle de week-end, et que le week-end se termine mardi, voire mercredi, ce n'est plus une fin de semaine. D'ailleurs, je vois des marchands de vacances qui ont essayé d'implanter midweek. Le midweek, faire ça en milieu de semaine, il n'a pas pris. Heureusement, midweek n'a pas pris, mais qui n'est que le milieu de semaine.
Alors Alfred Gilder, on se retrouve dans quelques instants, bien sûr, avec Anthologie des jeux avec les mots. Partager le savoir avec Alfred Gilder, qui aime les mots particulièrement, à telle enseigne qu'il joue aimablement avec eux et souvent avec humour, comme on va le voir. Avec Anthologie des jeux avec les mots, j'en étais un petit peu à évoquer vos champs d'action, Alfred Gilder. Je rappelle que vous parlez arabe, 5 langues, que vous avez fait l'acquisition du français à l'âge de 10 ans, vous parlez couramment anglais. Le dictionnaire franglais-français sur lequel on s'est attardé et qui est une référence unique en la matière de tous ces équivalents aux mots anglais qui sont si présents dans notre langue. Vous avez également publié le français administratif, puisque vous travaillez à Bercy avec des fonctions importantes et que vous êtes notamment haut fonctionnaire de terminologie, une question que nous avons également abordée. Alors, Anthologie des jeux avec les mots, préfacée par Anne Roumanoff, postfacée par Claude Agege. Alors, un petit clin d'œil, parce que je ne l'ai pas signalé dans votre CV, vous êtes également président du Théâtre 13. Qui reçoit donc des artistes. Anne Roumanoff figurant parmi nos artistes particulièrement drôles. Alfred Gilder, vous la connaissez bien, Anne Roumanoff?
Oui, j'ai fait sa connaissance à travers un ami commun. Maintenant, nous nous connaissons. Elle était un peu réticente ou méfiante au début, parce qu'un haut fonctionnaire, d'une part, et d'autre part, au ministère des Finances...
C'est un peu tristoun.
Ça fait tristouner. Ce n'est pas le genre de la maison d'être drôle, quoique il y a aussi des gens très drôles au ministère. Et puis, c'est surtout les finances, ça veut dire les impôts. Donc, pour les artistes, tout ça fait... Donc, elle était un peu prudente et méfiante. Mais quand elle a lu l'ouvrage, elle a trouvé ça très bien. Donc, elle a accepté de me faire une préface. Alors, Anne Roumanoff pour l'aspect humoristique et Claude Agege
pour la caution universitaire.
Et la caution, la garantie linguistique, puisque jouer avec les mots. J'ai voulu surtout, dans cet ouvrage d'humour linguistique, montrer que notre langue a des ressources infinies avec lesquelles on peut jouer. Jouer sur les mots, les académiciens français sont eux-mêmes les premiers à jouer avec les mots. Donc, souvent, quand on parle de la langue française, quand on la défend, on passe très vite pour quelqu'un d'un peu dépassé, réactionnaire.
Vieux schnock, ringard,
exactement.
Barbant, pisse-vinaigre.
Voilà. et un peu de calme dans l'expression, mais je suis d'accord avec vous. Mais donc, il faut prendre de revers, il ne faut pas simplement défendre la langue, mais servir à sa contre-attaque. Donc, et de montrer que les mots, et notamment pour les jeunes, j'ai vu que ce livre plaît à des jeunes, c'est de jouer avec les mots, c'est une forme. Donc, il faut avoir une conduite ludique et c'est, à mon sens, une des deux manières de plaider la cause du français comme langue universelle. C'est montrer que non seulement c'est un facteur d'intelligence qui a de la lumière à travers des textes bien écrits, et d'autre part, de montrer que on peut jouer avec les mots, et c'est un aspect très agréable et une manière non seulement habile mais efficace de faire ce qu'on appelle depuis Dubélé la défense et l'illustration. Aujourd'hui d'ailleurs dans le vocabulaire nouveau on parle d'enrichissement de la langue, une manière de l'enrichir à travers des mots nouveaux ou des mots d'esprit. C'est un peu ça, c'est ce qui est au fond de cet ouvrage.
Vous invitez à bien me tenir, Alfred Gilder, mais là, moi, je vais vous conseiller de vous lâcher un petit peu parce que, voilà, je vais lire un point. Franchement, si vous aimez rigoler, lisez cette anthologie du patrimoine humoristique français, pleine de traits d'esprit, de calembours, de contrepétries et autres formes de jeux de mots, des plus simples, telles la charade ou l'énigme, aux plus élaborés comme l'anagramme, le palindrome ou le logogriffe. Il y en a d'autres, on en parlera d'ailleurs, le tautogramme, etc. L'auteur, cet empêcheur de vieillir en rond, n'en est pas à son coup d'essai. D'habitude, Alfred Gilder expliquait comment bien écrire quand on travaille aux impôts. C'est aussi utile que d'apprendre au poète à calculer. Cette fois-ci, il a bagnaudé sur les chemins buissonniers, mais en y sent la rigueur tout de même. Évaluation, enregistrement et recensement, le cadastre de l'humour, le rôle de l'hilarant, la liasse du poilant. Donc vous êtes quand même amusé, Alfred Gilder, là.
Ah oui, oui. Oui, oui.
Franchement, en le lisant, vous aurez l'impression d'être Monsieur Jourdain et d'avoir fait de l'humour toute votre vie sans rien savoir du palindrome. Vous êtes quand même quelqu'un qui aimait, un, rigoler, et deux, nous enrichir, certes, mais ce n'est pas un travail besogneux de récapitulation des tournures linguistiques.
Non, non. D'abord parce qu'on m'a dit que j'avais une propension naturelle à l'humour et à la joie. L'humour, bon, je pense que je tiens ça de mon père qui était anglais, encore que l'humour français et l'humour anglais et l'esprit français sont des choses un petit peu différentes. Et d'autre part, effectivement, j'ai cité dans mon prologue le mot de tabouro des accords qui a fait beaucoup de palindromes.
De quoi?
Le tabouro des accords.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein?
C'est un contemporain de Rabelais qui a fait beaucoup de contrepétries, d'anagrammes, de rébus. Il a beaucoup joué avec toutes ces formes. Il a écrit un livre qui s'appelle le tabouro des accords. C'est son nom, tabouro, seigneur des accords. Donc, il a fait un recueil, c'est de diverses formes de jeux de mots, dont les contrepétries, pour lesquelles il était très, très féru là-dessus. Donc, toute forme de jeu de mots. Et il dit lui-même dans son prologue, et je le reprends dans le mien, qu'il a écrit ce livre pour rire lui-même et faire rire les autres. Il l'a fait pour son plaisir d'abord, charité bien ordonnée, puis pour celui des autres. Donc, effectivement, j'ai voulu m'amuser, longtemps noté sur des petits carnets des mots d'esprit, des très jolis jeux de mots. Un me vient à l'esprit parmi mille autres. Au Liban, j'ai entendu qu'on dit que le mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est seulement la belle-mère à avaler. Vous voyez ? Donc, j'ai mis beaucoup de mots comme ça au début de l'ouvrage, des mots d'esprit.
Alors ça entre dans la catégorie ? Dans quelle catégorie ça
Les bons
ça
mots.
Les bons mots.
Les bons mots, les mots d'esprit. J'appelle ça d'ailleurs des euphorismes. Un euphorisme, c'est-à-dire un mélange joyeux d'aphorisme et d'euphorie. Donc j'en ai.
Vous aimez bien les mots valises, là, parce que tout à l'heure, avec ordiphone.
Oui.
Et là, avec euphorisme, vous aimez bien jouer un petit peu sur les. Et même avec les anglicismes, par exemple, Latin lover, chaud latin.
Chaud latin, oui. Oui, oui. Là, j'aime beaucoup les mots valises. J'en crée moi-même, et sans me vanter. Tout le monde peut créer des mots valises. En anglais, on crée énormément de mots valises. Et je souhaiterais qu'en français, on en fasse de même, parce que ça permet de répondre à ce souci de créer des mots nouveaux pour désigner des choses nouvelles.
L'allemand en fait constamment.
Oui, l'allemand en fait constamment. C'est le mot valise, je rappelle aux auditeurs, c'est prendre deux mots. Motel, par exemple, en anglais, qui est passé en français. C'est moto et hôtel, parce qu'on vient avec sa voiture. Si on pouvait l'entrer dans la chambre à coucher, qu'on le ferait. Bon, elle est juste à côté. Donc, les Anglais ont créé
Johnny,
énormément.
Oui.
On peut aussi dormir dans sa voiture, d'ailleurs. Mais
Foultitude. Multitude, oui. Et foule.
Foule. Le plus ancien, parce que c'est, le mot valise a été créé dans sa forme anglaise par Lewis Carroll. Hein. Portmanteau word. D'ailleurs, mot valise, on l'a bien traduit, celui-ci. Voilà un équivalent mot valise, puisque, comme chacun le sait, portmanteau, en anglais, portmanteau veut dire valise. Parce qu'au départ, on portait un manteau dans quelque chose. Bon. Mais le plus ancien que j'ai relevé en français, il est dans Rabelais, qui était en butte avec la scolastique de la Sorbonne. Et c'est Sorbonnagre. Sorbonne plus onagre. Une variété d'âne. Donc Sorbonnagre.
Sorbonnagre.
Familionnaire. J'aime bien familionnaire. C'est un mot de Heinrich Heine à propos des Rothschild. Il disait qu'il avait une attitude familionnaire, parce qu'il était très familier. Bon, les mots valises, j'ai fait tout un chapitre
là-dessus.
Mais
il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens du mot valise ? Puisque réunissant justement
deux termes en un seul, définition. Non, je crois que tout le monde comprend l'histoire du mot valise. Si on met dans la même valise plusieurs mots.
Mais il y a une portée éminemment humoristique.
Oui, oui, oui. Ah ben bien sûr, c'est surtout... Au départ, j'ai rappelé le mot valise sous son angle sérieux. Et après, j'ai fait un relevé des mots plutôt drôles. Dans les mots plutôt...
Interview, j'avais noté, puisqu'on fait une interview en ce moment à Fred Gilder. J'avais vu que dans votre dictionnaire franglais-français, vous aviez entrevu,
oui,
ou intervu.
Oui, oui, oui.
Ce qui est assez drôle, puisque oui, ça permet de qualifier d'une certaine façon les interviews, les fausses interviews, les interviews bidons qui n'en sont pas,
oui,
et qui sont des interviews de complaisance.
Exactement. Bon.
Bec à bec aussi, etc.
Oui.
Bon. Regardez, alors, on est dans les mots valises.
Dans les mots valises, par exemple, bon, j'en prends un au hasard, des euphéminismes. Féminitude politiquement correcte. C'est d'actualité, ça. Puisqu'on est sur le chapitre féminin... Bon, ça, c'est un mot valise qu'on qualifiera de savant. Le lazy stratagème, c'est l'application du serment lancé du haut de l'Acropole par Lysistrata, qui avait dit aux hommes de la Grèce antique, lesquels passaient leur temps à se faire la guerre, elle leur avait dit, si vous faites la guerre, nous ne ferons plus l'amour. Donc, un lazy stratagème.
Vous vous dites, faites l'humour, pas la guerre.
Oui, moi, c'est ma devise. Un météocrate, par exemple, faiseur de pluie et de beau temps, au tempérament tempétueux et à l'esprit embrumé. Bon. La diabolectique, c'est la dialectique diabolique. Vous voyez, on peut jouer comme ça. Donc, j'en ai mis tout un paquet. Un tout triste, puisqu'on a les vacances arrivent. Un tout triste, c'est un touriste déçu de son voyage.
Ça pourrait être repris par la presse assez facilement. Et pourtant, elle le fait peu.
Ben justement, pour revenir à la terminologie, j'aimerais bien regarder avec l'affaire Kerviel et l'affaire Madoff. Pour dire un trader, on l'a traduit officiellement par opérateur de marché. Mais personne, aucun journaliste n'emploie le terme opérateur de marché. Mais pour qualifier ces gens-là, le style Kerviel ou Madoff, il y a un très beau mot valise qui a été proposé, il n'est pas de moi, mais j'y souscris à 101%, c'est un bankster. Vous voyez, un bankster, voilà un beau mot valise, et je gagerai...
Alors, B-A-N.
On peut l'écrire...
Vous maintenez le cas ou
le cas, oui, on peut le maintenir, parce que... Ou on peut mettre Q-E et S-T-A-I-R-E, ou on peut le maintenir B-A-N-K-S-T-E-R, mais au moins, c'est drôle. Après, l'usage montrera si... Si on le francise, mais voilà un mot qui peut prendre.
Très parlant, très
parlant,
imagé.
Un bankster, je pense que là, personne n'aura de difficulté pour comprendre. Voilà pour les mots valises. Je trouve que c'est une jolie manière
de tordre la langue.
De tordre la langue. On ne l'utilise pas assez, le mot valise. On n'en crée pas assez. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui en ont créé. Alain Finkielkraut en crée, j'en ai cité pas mal. Si on va sur un moteur de recherche tel que Google, on tape mot valise.
Tel que quoi ?
Google.
Ah, Google, ok.
Google, c'est comme ça que vous dites, non ?
Ah oui, je ne sais pas, enfin j'entends Google, mais c'est vrai que bon, oui.
Voilà.
C'est vous qui parlez anglais.
Oui, moi par exemple pour brainstorming, qui a été très bien traduit par Louis Armand, par Remue-Ménage, moi j'ai proposé la chamaïotique.
Bon, c'est chamaïotique, oui.
La chamaïotique.
Se chamailler et la maïotique.
Et la maïotique, puisque c'est l'art d'accoucher les idées, le remue-ménage.
Donc, tempête de cerveau, c'est pas mal non plus.
Oui, tempête sous un crâne, oui, oui, il y a plusieurs autres expressions. Bon, dans le dictionnaire, j'en ai proposé tout un petit
paquet. On revient inévitablement à l'anglais, Alfred Gilder.
Oui.
Un showroom, comment est-ce que vous dites, un showroom ?
Un showroom, c'est une salle d'exposition.
Salle d'exposition, oui.
Oui, mais ça fait plus pédant, plus classe. Si vous faites une salle d'exposition, c'est d'un quelconque, cher monsieur. Mais si vous faites un showroom, alors là...
Il y a le show. C'est-à-dire que l'anglais donne une sorte de... Il scénarise énormément l'événement en anglais. Vous ne trouvez pas ?
Oui.
Le français a du mal à donner une image
Oui, mais un spectacle. Regardez, j'en profite pour critiquer le titre d'une émission qui s'appelle, même deux, Talk Show, alors qu'on aurait dit autrefois au coin du feu ou aux conversations, une conversade. Bon, on ne manquerait pas d'équivalent. Mais surtout, politiquement chaud. L'émission, je récuse ce terme parce que la politique, pour moi, c'est pas... Bien sûr, c'est un
show,
côté spectaculaire.
C'est H-A-U-D ?
Oui, c'est un jeu de mots franco-anglais. Et show, c'est S-H-O comme un show.
Ah oui, d'accord,
le
à l'anglaise.
Spectacle. Oui, à l'anglaise.
Mais pas show, le contraire
oui,
de froid.
Mais voilà, quand je vous disais dans un sens, le show en anglais, en américain, le show, c'est quelque chose, c'est la parade, c'est le spectacle à l'américaine, quoi, avec les majorettes, qu'on appelle pom-pom girl, etc. Donc la politique, ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas ma conception de la politique, que les hommes politiques fassent un peu d'humour et qu'ils battent l'estrade, qu'ils fassent un peu de le spectacle, mais ce n'est pas ça la politique. Et quand on voit le débat, ce n'est pas une émission des grosses têtes. Donc c'est quand même autre chose. Donc n'employons pas les termes anglais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prince Charles mène ce combat, que je suis comme le prince. Il critique souvent les américanismes en disant « attention, c'est le... »
Qui corrode l'anglais.
Voilà, qui corrode l'anglais.
Allez, votre grosse tête, on va continuer à puiser dedans, Alfred Gilder, à tout de suite. Alfred Gilder est avec nous avec Partager le savoir, le partage justement. Eh bien, on va partager quelques notions avec Anthologie des jeux avec les mots aux éditions du Cherche Midi, préfacées par Anne Roumanoff et Claude Agege. Alfred Gilder, allez, je ne rappelle pas votre cursus, on l'a suffisamment dit. On sait que vous aimez jouer avec les mots, on va jouer un petit peu, parce que là, on a parlé beaucoup des mots valises. Alors évidemment, on ne peut pas s'arrêter 10 minutes, un quart d'heure sur chaque catégorie, parce qu'il y en a une quantité. Les calembours, les contrepétries, les mots d'esprit, les énigmes, les charades, les anecdotes, primes sautières, les devinettes, les logogriffes, les jeux de comble, humour en croix, anagramme, palindrome, mots valises, on les a vus. ABCDR, famille recomposée, mélie les mots, acrostiche, sonorité sonore, totogramme. Qu'est-ce que c'est un totogramme ?
Un totogramme, c'est une forme de jeu de mots où le dur désir de durer. C'est les phrases...
Les allitérations ?
Totor, voilà. C'est totor, tator, tutus et tutetu. Pourquoi tentais tu ? Moi, j'ai fait tout un totogramme en D, commençant par la lettre D. Hein, un long texte, deux douaniers douteux, etc. Voilà le totogramme.
Comment s'appellent les textes que l'on doit écrire en faisant abstraction d'une seule lettre, pas de lettre E, par exemple.
Oui, c'est le lipogramme.
Le lipogramme. C'est il arrive en fin de liste. Voilà. Lipogramme, juste avant le rébus.
Oui, alors le lipogramme, c'est un genre qui remonte à l'Antiquité. Je cite les premiers auteurs grecs qui l'ont employé. Le plus connu des lipogrammistes, c'est Pérec. Comme il a travaillé pour l'Oulipo, je l'ai appelé un oulipogrammiste. Voilà un mot valise. Il a fait un livre de 263 pages que beaucoup ont lu et que je recommande, qui s'appelle « La disparition ». il a fait sans la lettre E. La disparition, c'est la disparition de la lettre E, ce qui est très difficile, puisque comme en anglais, la lettre E est celle qui est la plus employée en français. Et pourquoi la lettre E ? C'est là où on voit que derrière l'humour, il y a bien d'autres choses. C'est parce que Georges Perec, son père, est mort au début de la guerre 40, en tant que soldat, et sa mère est morte à Auschwitz. Donc c'est sans E, la E-U-X. Lettre E, et E-U-X, sans E, ses parents. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui était au fond de lui-même. Donc c'est ça l'hippogramme.
C'est un joli défi.
Un joli défi.
C'est un vrai défi.
Et alors c'est très très drôle parce que parfois, il est obligé pour certains mots de remplacer une autre lettre. Par exemple, les chamelles, il les appelle les chemelles. Les chemelles s'en mêlent. Bon, donc ça aboutit à des choses. Je donne des exemples de l'hippogramme en A. Ça fait très, c'est très très drôle. Enfin, moi ça m'amuse en tout cas. Je ne suis heureusement pas le seul. Vous avez la chose inverse qui est le pangramme.
Alors voilà, justement, je voulais en parler. Le pangramme.
Ben, c'est le contraire. C'est toutes les lettres de l'alphabet en une seule et même phrase.
Vous avez des exemples?
Oui, ben, l'exemple le plus connu. Oui, la difficulté du pangramme, c'est de faire des phrases qui ont un sens. Alors, vous avez l'exemple matriciel, l'exemple type, c'est Georges Perec qui dit « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ». Dans cette phrase, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. À ceci près que certaines... Portez ce vieux
ce
whisky.
Vieux.
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est une phrase qui a du sens.
Whisky est très commode, c'est vrai.
Voilà.
Pour caser oui, les
whisky,
lettres françaises.
Alors, oui, alors, dans les pangrammes, il y a beaucoup de mots aussi bizarres qu'étranges, mais où il y a plusieurs kvas, par exemple, KW, etc. Bon, il y a plusieurs mots comme ça qu'on retrouve souvent. Et whisky revient plus souvent qu'à son tour.
Au Scrabble, il faut le caser, whisky. Hein.
Ah oui, oui, oui. Sur les lettres, lettres compte triple.
Vous avez aussi l'épigramme. Allez, je continue. En gramme, toujours.
Ah, l'épigramme. Alors, l'épigramme, c'est là où on voit qu'on a changé d'époque. Pendant 2-3 siècles, l'épigramme était... C'est un petit... J'ai appelé ça la rosserie rimée. C'était un petit quatrain. Bah, puisqu'on est à l'Académie, il y en a un, ce fameux Piron, qui était la bête noire de Voltaire. Piron qui ne fut rien, pas même académicien. Vous voyez, c'est très méchant pour l'Académie. Et pour lui aussi. Les épitaphes, souvent, puisque au départ, c'était des épitaphes chez les Grecs ou les Romains, des épitaphes ou des citations très courtes. Il y a une épitaphe que je cite, quelqu'un qui a mis sur sa tombe, sa femme, qui repose ici pour son repos et pour le mien. Vous voyez ? Donc, c'était des rosseries rimées. Il y a beaucoup d'échanges. Souvent, c'était des dialogues. Il y avait une attaque et il y avait la contre-attaque. L'épigramme se perd un petit peu aujourd'hui, hélas, mais pendant 2-3 bons siècles, on en a fait et il y en a de merveilleuses. L'épigramme, c'est un mot féminin d'ailleurs. Je disais une épigramme, et, parce qu'il y a l'épigramme, un épigramme, l'épigramme de veau. Donc l'épigramme
c'est autre chose,
de veau,
ça. Oui.
Et l'épigramme au féminin, c'est vache. C'est une vacherie. Donc, enfin,
ah oui, d'accord.
Bon, excusez ce mauvais jeu de mots.
Holorime.
Ah, l'holorime, c'est un vers qui est dupliqué avec un sens tout à fait différent. Il y a celui qui est très connu de la Tour Magnanime, qui est de Henri Monnier, mais moi j'aime bien celui de Louise de Villemorin, merveilleuse joueuse de mots dans l'alphabet des aveux. Elle écrit « Étonnamment monotone, hélas, et, EST, ton âme en mont, automne, hélas ». Ça, c'est très, très beau. Donc là, j'ai fait tout un chapitre d'holorimes. J'en crée moi-même quelques-uns pour le plaisir.
Ce n'est pas accessible à tout le monde hein, comme exercice, quand même.
Oui, mais c'est bien. Voilà quelque chose d'intéressant, notamment pour les jeunes, pour leur montrer le sens des mots et comment...
Jeu des combles.
Ah, les combles, c'est quel est le comble d'eux ?
Ah oui, d'accord.
C'est quel est le comble ? Ah, ça, c'est très vieux comme jeu. Voilà un comble que j'ai oublié de mettre. Quel est le comble pour une bonne sœur ? C'est de vivre en vierge et de mourir enceinte. Bon, voilà, c'est le genre de comble. Il y en a dans
je la ressortirai, celle-là.
Hein ? Elle est mignonne, elle n'est pas trop...
Oui, très, très, très mignonne, voilà, jeu de comble. On a aussi...
Les familles recomposées, par exemple.
Les familles recomposées, oui, voilà. Oui, bah oui. Qu'est-ce que vous en faites ?
Bah, par exemple, monsieur et madame en faillite ont une fille. Vous savez son prénom ?
En faillite...
Bah, c'est Mélusine.
Mélusine en faillite, bien sûr.
Voilà.
Ouais, bon. J'en ai quelques autres. Attenez, monsieur et madame Marolex ont une fille.
Éléonore.
Bien, Éléonore Marolex. Ah, vous êtes intraitable, Alfred Gilder.
Voilà, alors les familles recomposées, j'ai mis avec un prénom pour commencer, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et j'arrive jusqu'à 13. On arrive à enchaîner 13.
13
Oui.
Mais c'est colossal.
Oui, oui, oui. Alors bien sûr, là, on donne un peu dans le
burlesque.
Dans le burlesque et dans l'à peu près. Le calembour, oui, par exemple, rien qu'avec un seul, monsieur, madame Couvert ont une fille. Prénom Armel Couvert. Bon, vous voyez, donc on est déjà dans l'à peu près...
Dans le capillotracté.
Voilà, exactement, comme vous dites si bien.
Alors, l'acrostiche, qui est une figure connue, une figure de rhétorique connue, non ?
C'est le nom démasqué ou masqué, comme on veut. Oui, ça remonte là aussi au grec et au latin. Mais Villon, on a fait pas mal. François Villon, dans ses balades, il mettait souvent son nom. Donc, l'intérêt des...
C'est la première lettre.
La première lettre.
Qui
c'est la première lettre
mot.
De chaque vers. Et en vertical, alors il y a l'acrostiche, le panstiche, le mésostiche, le télestiche. Le télestiche, c'est à la fin, la dernière lettre. Vous en avez même où il y a au début et à la fin. Et puis, il peut être en diagonale. Donc, il y a plusieurs formes d'acrostiche et pas uniquement l'acrostiche. Acrostiche veut dire acros et stikos en grec, l'extrémité du verre. Mais l'extrémité peut être au début ou à la fin.
Il y a des messages un peu déguisés que l'on peut faire passer
oui,
sous
oui,
forme
oui.
d'acrostiche, des mots d'amour, par
des
exemple.
Des mots d'amour.
Ça a été le
bon,
cas.
J'en ai donné un entre Musset et Georges Sand, mais qui est très, très grivois.
Très puis, grivois, effectivement.
Voilà. Et puis, il y en a un qui est très politique. C'est un texte que je recommande tout à la fin. Un texte, un programme politique. Quand on le lit dans un sens, c'est très vertueux. Et si on le lit dans l'autre sens, c'est très odieux parce que c'est dire...
C'est le contraire, en fait.
C'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'ils veulent faire. Voilà des formes de jeu avec les mots.
Et quand c'est un texte tout entier, c'est un autre nom, non ?
Comment ça ?
Quand c'est le texte inversé, quand on inverse le sens selon la lecture du texte, ça reste...
Oui, c'est une forme d'acrostiche
mais
pour moi,
intégrale quasiment.
Intégrale, l'acrostiche intégrale. Et qui s'étend à toute la ligne, à toute la phrase, toute la ligne.
Et là, c'est vraiment très dur
voilà.
quand même. Hein. Le logogriffe.
Là aussi, pendant 2-3 siècles, on a fait des kilos, des tonnes de logogriffes qui consistent à faire un petit poème. C'est de la forme de la charade, si vous voulez, où il faut trouver à la fin le sens, mais avec un mot dans lequel on en a plusieurs. Avec le même mot, je vais... Vous donner un exemple.
Là, on est dans des conceptions quand même très élaborées. Hein.
Oui, mais ça plaisait beaucoup parce qu'autrefois, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas le portable, on n'avait pas l'ordiphone. Et pour les longues soirées, on s'amusait. Je vous en donne un logogriffe délectable, très court. Je brille avec 6 pieds, avec 5, je te couvre. Je brille avec 6 pieds, c'est étoile. Avec 5, je te couvre, c'est toile. Donc, vous en voulez un autre.
En fait, ce sont deux définitions qui donnent
voilà.
un mot.
Deux ou plusieurs. Il y a
plusieurs qui donnent un mot assez proche
oui,
à l'arrivée,
oui, oui,
toile
oui.
et toile.
Oui, oui, oui. Il y en a un qui est au XVIIIe siècle, un dénommé
Intellectuellement, c'est très formateur, intellectuellement.
Oui, c'est très formateur parce que c'est comme la charade, il faut trouver le sens. Mais là, on donne des définitions longues. Là, je vous ai donné une très courte. Je brille avec 6 pieds. Si on cherche un petit peu, on peut trouver étoile en réfléchissant. Mais c'est vrai qu'on est...
Les pieds de l'étoile, on pense aux pieds de la table, mais c'est vrai que
oui,
les pieds de l'étoile,
oui,
c'est un petit
faut,
peu plus dur.
Oui, mais il faut chercher. Mais on peut trouver. Mais c'est souvent des définitions. Donc, encore un. Si j'instruis,
logogriffe. Hein.
Logogriffe. Si j'instruis tous les humains, si tu me coupes la tête, je n'ai plus de raison et suis pis que la bête.
Alors, j'instruis tous les humains.
C'est le livre, Et après, si on trouve le premier, on trouve facilement le second. Si tu me coupes la tête, c'est-à-dire si j'enlève la première lettre, je n'ai plus de raison et suis pis que la bête. Donc, ivre.
Ivre. Ah, oui, d'accord. Bon.
Donc, ça, c'est des anagrammes classiques. Dans les vieux Larousse...
C'était une définition de Michel Laclos, au mot croisé, qui me revient à l'esprit. Après une cuite, après la crue.
Oui, j'adore. Alors, moi, j'ai fait
Noé, bien sûr.
Oui, oui, oui. J'ai fait là-dessus, j'ai fait tout un chapitre sur les définitions humoristiques de ce que j'appelle les mots en croix. Voilà une traduction en français, puisqu'au départ, c'était crosswords.
Humour en croix, effectivement.
Oui, vous avez crosswords, puisque le mot était anglais. Et là, on a pris quand même la peine de le remplacer par mots croisés en français. Alors, et les mots croisés sont intéressants lorsque les définitions sont humoristiques.
Ce qui, là aussi, représente une tournure d'esprit qu'il faut acquérir. Aussi bien d'ailleurs pour celui qui les conçoit que pour celui qui les, qui les remplit.
Entre les verbicrucistes et les cruciverbistes, les Oedipe et les Sphinx. Hein. Mais c'est montré, pour les mots croisés comme pour les autres formes de jeux de mots, c'est montré tout le sel de la langue.
Vous serez le sel de la terre, je conclue par une phrase biblique.
Qui est très belle.
Évangélique. Oui. Merci beaucoup Alfred Gilder. Anthologie des jeux avec les mots aux éditions Le Cherche Midi. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on n'a évidemment pas vues. Hein. Je citerai les calembours, si vous en avez sorti quelques-uns. Bon, il y a d'autres catégories que l'on pourra découvrir dans cet ouvrage amusant, mais je voudrais insister sur une notion, ce n'est pas seulement amusant, comme on l'a dit, c'est aussi formateur pour l'esprit, ça entretient une forme de gymnastique et donc une forme d'aisance, d'agilité intellectuelle. Donc c'est donc aussi, j'ose le mot, une thérapie. Dans ce monde de l'audiovisuel où domine l'image, où domine la passivité, et bien là vous êtes actif avec votre langue que vous entretenez et avec laquelle vous vous amusez, puisque l'humour, pour conclure de manière... biblique, l'humour est l'alpha et l'oméga de votre démarche, Alfred Gilder. Merci.
Merci beaucoup.